Matuidi, good ball, Giroud, helped on here, and Mbappe's got another one! 4-2, and now France really are in control.
Le podcast de Chronique Bleue, numéro 1, histoire du maillot de l'équipe de France.
Bonjour, je suis Mathieu Delahaye, j'ai coécrit avec Bruno Colombari le livre « Un maillot, une légende » qui raconte l'histoire du maillot de l'équipe de France de football. Ce livre a été publié aux éditions Solar en fin d'année dernière et a été écrit en collaboration avec la Fédération française de football. Ce sera donc le sujet de mon intervention. Au cours des recherches que nous avons faites pour écrire ce livre, nous avons dénombré 94 maillots portés au cours de l'histoire de l'équipe de France. Pourtant, nous aurions pu en ajouter un 95e. En effet, en 1900 s'est déroulée à Paris l'exposition universelle, au cours de laquelle ont eu lieu des épreuves sportives, la deuxième édition des Jeux Olympiques. Il y a eu une épreuve de football à laquelle la France a participé, même si ces matchs n'ont jamais été reconnus officiellement dans l'histoire de l'équipe de France. Pour ces deux rencontres, la France a joué avec un maillot blanc, et il y avait deux grands anneaux, rouge et bleu, enlacés sur la poitrine. Ces anneaux étaient le symbole de l'USFSA, l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, qui était l'organisme qui gérait la majeure partie des sports en France à cette époque. En 1904, l'équipe de France démarre officiellement son histoire par un match face à la Belgique. Pour cette occasion, les Français jouent en blanc, et comme c'est toujours l'USFSA qui gère l'équipe, il y a des petits anneaux enlacés rouge et bleu portés dans un écusson sur le cœur. En 1906, pour la première fois, la France joue en rouge lors d'un match face à l'Angleterre. Le match a lieu en France, mais à cette époque, c'était l'équipe hôte qui devait changer de tenue en cas de similitude avec le maillot de son adversaire. À partir de 1908, l'équipe de France joue en bleu. Au cours de cette année 1908, un conflit va éclater entre l'USFSA et la FIFA, la Fédération internationale de football, au sujet de l'amateurisme. Ça va déboucher sur le départ de l'USFSA de la FIFA. Et à partir de 1909, c'est le CFI, le Comité français interfédéral, qui va gérer l'équipe de France à l'international. Le CFI propose un maillot blanc avec un grand col à large boutonnière rouge et de fines rayures bleues. Ce qui est intéressant de remarquer sur la période d'avant la Première Guerre mondiale, c'est qu'il existe des disparités entre les tenues des joueurs. Au niveau des écussons de l'USFSA, les anneaux rouges et bleus ne sont pas toujours positionnés dans le même sens. Sur le maillot à rayures du CFI, les rayures ne sont pas alignées de la même manière sur les maillots de tous les joueurs. Alors ces petits problèmes d'intendance ne sont pas propres à l'équipe de France. On en a pour preuve un témoignage de Fernand Canel, un international français, qui à l'issue d'un match contre la Belgique, s'était dit qu'il était quelque peu surpris de constater que les chemises des Belges n'avaient pas toutes la même couleur. Il y avait aussi un autre petit problème vestimentaire à l'époque, c'est que les fédérations ne fournissaient aux internationaux français que les maillots. Ce qui fait que les joueurs amenaient leurs shorts et leurs chaussettes et qu'ils n'étaient pas tous de la même couleur. Quand on examine les photos d'époque, on constate des disparités sur les shorts et chaussettes des joueurs. Par contre, à partir de 1914, le CFI va essayer d'uniformiser un peu les choses. À l'époque, les joueurs étaient convoqués par voie de presse et dans l'auto, l'ancêtre de l'équipe, il est demandé le 26 mars 1914. Il est donc précisé que les joueurs devront se munir d'une culotte blanche propre pour le prochain match. Donc il y a un souci d'uniformisation qui arrive à partir de ce moment-là. En 1919, la FFFA, Fédération Française de Football Association, est fondée. Cela regroupe toutes les familles du football en France et met fin au conflit entre l'USFSA, le CFI et tous les organismes qui géraient le football avant-guerre. Lors du premier match joué après-guerre, les Français évoluent avec un maillot à rayures bleu-blanc-rouge qui ne sera utilisé qu'une seule fois et sur lequel on retrouvera un souci d'alignement des couleurs entre les tenues des différents joueurs. Par contre, la FFF va imposer comme couleur un maillot bleu, un short blanc et des chaussettes rouges. Le maillot rouge restera le maillot de remplacement. Il sera utilisé jusqu'au début des années 60 lors des matchs à domicile contre des équipes évoluant en bleu, donc la Yougoslavie, l'Italie, l'Islande, l'Écosse pour l'essentiel. À de très rares occasions les Français vont jouer en blanc. Le quart de finale des Jeux Olympiques de 1940 face à l'Italie, par exemple, ou un match face à l'Écosse en 1948. Ce maillot bleu va vite entrer dans l'imaginaire populaire comme la couleur de référence de l'équipe de France. On en a pour preuve le début de l'année 1921, où la France va être contrainte de jouer deux fois successivement en rouge pour des matchs face à l'Irlande du Nord puis l'Italie, et lors du retour du maillot bleu en mars face à la Belgique, l'Auto, qui est le journal sportif ancêtre de l'équipe, va s'en réjouir avec ces mots: le 11 de France qui retrouvera pour cette occasion le maillot bleu de France abandonné contre l'Irlande et l'Italie. Donc on voit que le maillot bleu commence à s'associer à l'équipe de France de football. Au cours des 40 années qui vont venir, donc jusqu'au début des années 60, il y aura très peu d'évolution sur le maillot de l'équipe de France. La tenue va rester bleue, il n'y aura pas de petites fioritures comme on peut en avoir de nos jours. Il y aura quelques changements qui apparaîtront au niveau du col, qui va passer du col lacet au col bouton. On passera à 2-3 boutons en fonction des époques. Par contre, il y a quand même quelques nouveautés qu'il est intéressant de noter. Tout d'abord, il y a l'apparition du coq. Lors de la demi-finale des Jeux Olympiques de 1920, le 31 août de cette année-là, pour la première fois, la France porte un coq sur son maillot. Pour des raisons qu'on ignore, le coq est abandonné pour 3 matchs et il fait son retour en mai 1921 lors de la première victoire de la France face à l'Angleterre. Depuis, il n'a pu quitter le maillot de l'équipe de France. En mai 1945, lors d'un match face à l'Angleterre, des numéros sont utilisés pour la première fois. On a longtemps cru que les numéros dataient de mai 1948 face à l'Italie, mais nous avons trouvé des photos qui montrent le contraire. Ce que l'on suppose, ou plutôt ce que l'on sait, c'est que les Anglais évoluaient déjà souvent avec des numéros à cette période, et on suppose qu'ils ont demandé aux Français d'en porter pour ce match qui se déroulait en Angleterre. Un élément qui accrédite cette thèse est que les numéros des maillots français étaient noirs, alors que sur un maillot bleu, c'était plus logique d'avoir des numéros blancs, et les Anglais évoluaient aussi avec des numéros noirs. On peut donc penser que ce sont les Anglais qui ont fourni les numéros aux Français, qui les ont cousus sur leur maillot. Ça reste qu'une théorie, mais elle semble assez crédible. Autre élément, en octobre 1951, apparaît un cartouche sur le maillot. Il est placé en dessous du coq, et il porte la mention du match, donc le nom de l'adversaire, l'année, la date complète. Ça va changer en fonction des époques, mais à partir de ce moment, grâce à ce cartouche, on pourra dater les maillots de manière assez certaine. Donc dire que ces maillots sont les premiers datés n'est pas tout à fait exact, puisque lors des Jeux Olympiques de 1924, le coq était placé sur un écusson qui portait déjà une mention aux Jeux Olympiques. Donc les premiers maillots datables de manière sûre, ce sont les maillots des Jeux Olympiques de 1924. Il en existe encore deux qui sont en possession du musée Nicolin. Ce sont les maillots portés par Ernest Gravier, un maillot bleu porté face à la Lettonie en huitième de finale et un maillot rouge porté en quart de finale face à l'Uruguay. Ce seraient les deux plus vieux maillots de l'équipe de France encore existants. On n'a pas connaissance de maillots plus anciens que ceux-là. Dernière apparition notable au cours de cette période, le premier brassard de capitaine porté en septembre 1957, lors d'un match face à l'Islande, et le capitaine qui a eu cet honneur était Robert Jonquet. Je vais faire un petit retour arrière pour vous parler des équipementiers. Avant la Première Guerre mondiale, il y a très peu d'informations sur le sujet. En 1908, on trouve une trace, à la suite d'un match de l'équipe de France dans le journal Lotto, d'une maison d'habillement sportif qui s'appelle Williams, qui dit qu'elle a créé la tenue portée par l'équipe de France. En 1906, Tonnemer, une autre maison d'équipement sportif, plutôt spécialisée en ballons mais qui faisait également des maillots, dit que c'est elle qui a fourni les ballons du match, des matchs de l'équipe de France. On peut supposer qu'elle a aussi fourni les maillots, mais on n'a pas de certitude. Par contre, après la Première Guerre mondiale, on a plus d'informations. On sait qu'entre 1919 et 1923, c'est une maison qui s'appelait Ducine qui fournissait les équipements à l'équipe de France et qui a été remplacée par Allen en 1923. Allen va rester le partenaire de l'équipe de France jusqu'au début des années 60, où il sera remplacé par Lecoq Sportif, qui restera le partenaire des Bleus jusqu'en 1972, avant d'être remplacé par Adidas puis Nike. Il y aura juste un petit intermédiaire en 1969, où le temps de quelques matchs, c'est Coppa, la marque créée par l'ancien international français, qui va équiper l'équipe de France. Il y a tout de même une chose intéressante à noter concernant ces changements d'équipement, c'est qu'en 1923, donc, Allen prend le relais et Ducine cesse d'être le partenaire de l'équipe de France. Pourtant, le 14 janvier 1924, à l'occasion d'un France-Belgique, Ducine va continuer à essayer d'associer son nom à l'équipe de France. Dans le journal Lotto, toujours, on trouve cette mention qui dit « Le match France-Belgique s'est joué en 1919, 1921, 1923 avec le ballon du CIM, officiel de la 3FA, donc Fédération Française de Football Association, en 1919, 20, 21, 22 et 23. » Cette technique commerciale, qu'on pourrait appeler de l'ambush marketing, a été reprise par Adidas en 2011. En 2011, donc, Nike remplace Adidas, et le 9 février de cette année, pour le premier match où les Français vont porter un maillot Nike, Adidas a acheté beaucoup d'encarts publicitaires dans le journal L'Équipe. On voyait des photos joueurs portant des maillots bleus, sans que ce soit des maillots de l'équipe de France. On voyait des supporters français et brésiliens. Il y avait des images de coqs. Le but, c'était juste de rappeler que le maillot bleu, tout ce qui avait trait avec l'équipe de France, il fallait continuer à l'associer à Adidas. Donc, je trouve assez rigolo de voir que ces techniques commerciales qui aujourd'hui sont très répandues existaient déjà il y a plus d'un siècle. Si on reprend maintenant le cours de notre histoire, là où on l'avait laissé pour parler de ces équipementiers, on est arrivé au début des années 60, où un phénomène de société va avoir son importance dans l'habillement de l'équipe de France. C'est l'apparition de la télévision, qui commence à se répandre dans les foyers, et qui va faire que de plus en plus de matchs vont être diffusés et vus par beaucoup de monde. Par contre, la télévision à l'époque était en noir et blanc, ce qui fait que quand la France jouait en bleu, par exemple contre la Yougoslavie en rouge, il était assez difficile de distinguer les joueurs des deux équipes, parce qu'à l'écran, ça faisait du gris clair contre du gris un peu moins clair, et donc on avait du mal à distinguer les deux équipes. Ce problème était déjà connu en 1954, lors de la Coupe du Monde. Il y a eu aussi un France-Yougoslavie où les équipes avaient joué en bleu et rouge, et l'équipe, le lendemain, s'était plainte en disant qu'il était assez difficile de suivre la rencontre et qu'il fallait faire quelque chose. Ce quelque chose va être fait au début des années 60, où les fédérations vont demander aux équipes d'avoir des maillots de remplacement dont la couleur contraste fortement avec le maillot principal pour permettre une bonne visibilité et un bon suivi des matchs par les téléspectateurs. C'est donc à cette époque que le maillot rouge est abandonné et qu'il est remplacé par un maillot blanc. La télévision aura, je pense, un deuxième impact sur la tenue des joueurs, c'est que le fait que les matchs soient diffusés, les tenues vont être visibles pour de plus en plus de monde. Et donc les équipementiers vont sans doute essayer de rendre les tenues encore plus attrayantes. C'est d'ailleurs à cette époque que vont commencer à apparaître des liserés de couleurs sur les tenues, des liserés bleu, blanc, rouge au niveau des cols, au niveau des manches. Un autre phénomène qui aura son importance, même s'il vient un peu plus tard, c'est qu'à partir de 1978, les maillots vont être commercialisés auprès du grand public. Adidas, qui équipait les bleus à l'époque, va commencer à entrer dans un cycle où la tenue va être renouvelée de manière de plus en plus régulière pour essayer de vendre plus de tenues. Bon, le maillot qui était jusque-là assez bleu, assez uni, avec certes des petites touches de couleurs, va commencer à se colorer de plus en plus. Dans les années 90, on verra beaucoup de couleurs, de bleu, de rouge apparaître au niveau notamment des épaules des joueurs. Par contre, si on doit retenir une tenue symbolique des années Adidas, je pense que c'est sans conteste la fameuse bande rouge, souligné de trois fines lignes blanches qui apparaît pour la première fois en 1984, puisque c'est avec cette tenue que l'équipe de France va devenir championne d'Europe à domicile. 14 ans plus tard, Adidas va relancer exactement le même maillot pour le même résultat, la France va devenir championne du monde à domicile. Cette bande rouge sera réutilisée avec succès en 2000, puisque les Français deviendront champions d'Europe. Adidas va abuser de cette recette en 2004, 2008 et 2010, mais avec beaucoup moins de succès sportif. Concernant la période Adidas, on peut noter aussi en 2008 une tentative de retour du maillot rouge. Je pense que ça a été fait surtout de manière marketing, même si à l'époque Adidas et l'entourage de l'équipe de France ont essayé de rappeler que le rouge faisait partie des couleurs du drapeau. Pourtant, ce qui est le plus marquant par rapport à ce retour au maillot rouge, c'est qu'un certain nombre de personnes du monde du football se sont insurgées contre ce maillot rouge qui n'avait absolument rien à voir avec l'équipe de France. Alors que, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, historiquement, le second maillot de l'équipe de France était rouge. Il est devenu blanc à cause de soucis techniques pour la diffusion des matchs à la télévision. Quand on arrive à la période Nike, qui débute en 2011, on va arriver sur des maillots beaucoup plus sobres, beaucoup moins flashy que les tenues Adidas. Le bleu va devenir plus foncé et les tenues vont devenir un peu plus, j'ai envie de dire, passe-partout. C'est des tenues qu'on peut porter facilement dans la rue. La marinière est un bon exemple, c'est pas une tenue qui fait vraiment penser à un maillot de foot, mais c'est un vêtement qu'on peut porter facilement dans la rue. Donc il doit y avoir chez Nike un souci d'essayer de vendre des tenues qu'on puisse porter un peu partout. Au niveau des évolutions qu'on peut noter sur la période qui commence au début des années 60, tout d'abord il y a une évolution au niveau du coq. Jusque-là, le coq était dessiné de manière assez réaliste, il était coloré. À À partir des années 60, le POC va commencer à devenir juste doré. Il va commencer à se simplifier, à devenir beaucoup plus schématique. Entre 2008 et 2013, on aura même un modèle très stylisé, très moderne, avant d'avoir un retour à un coq depuis 2014, qui est dessiné certes de manière assez réaliste, un peu sur le modèle de ce qui existait dans les années 50, mais il est maintenant d'une seule couleur, soit en blanc, soit en bleu, en fonction de la couleur du maillot. On note aussi l'apparition du numéro sur le devant du maillot. Ça a eu lieu deux fois en 1973, et après ça a commencé à se généraliser en 1992, et c'est devenu une habitude par la suite. À cette époque aussi, à partir de 92, donc, on note l'apparition du nom des joueurs dans le dos du maillot. Un autre élément intéressant, c'est que depuis 1976, on surnomme les Bleus les Bleus. Avant, ce surnom était inconnu. On parlait plutôt des tricolores quand on parlait de l'équipe de France. La raison est assez simple. Dans les années 70, le football français a commencé à devenir de plus en plus populaire grâce à l'équipe de Saint-Étienne qui évoluait en vert, et toute la France chantait « Allez les Verts ». Par contre, en novembre 76, l'équipe de France de football a donc joué contre l'Irlande un match de qualification pour la Coupe du Monde, et le journal L'Équipe a titré « Ce soir, il faudra battre les Verts ». Et le soir, le public a chanté « Allez les Bleus », et c'est à partir de ce jour-là que les Bleus est devenu le surnom de l'équipe de France. Dernier petit changement, l'apparition des logos d'équipementiers. Pendant longtemps, il aurait été interdit d'être présent sur les tenues des joueurs. Ça a été permis à partir de 1975. Alors, pour être tout à fait exact, les logos apparaissaient quand même déjà parfois sur les shorts depuis la fin des années 60. On note aussi l'apparition de patchs qui font mention des compétitions, donc les phases qualificatives, les phases finales, qui sont portées sur les manches des joueurs. Ça a débuté en 1996 lors du championnat d'Europe des Nations. Et le dernier élément que vous connaissez tous, et qui est très important pour tous les supporters du football français, c'est bien entendu l'apparition de la première étoile en 1998 pour le premier titre de champion du monde, et d'une seconde étoile depuis 2018 pour le deuxième titre de champion du monde. Je vais terminer cette intervention en vous donnant quelques aspects financiers. En 1982, Adidas payait environ 1 million de francs pour être le partenaire de l'équipe de France, ça représente environ 150 000 euros. À la fin des années 90, le tarif était passé à une quarantaine de millions de francs annuels, ça fait environ 6 millions et demi d'euros, et ce chiffre va monter jusqu'à 10 millions d'euros annuels à la fin du partenariat entre l'équipe de France et Adidas. À partir de 2011, c'est Nike donc qui prend le relais pour un montant pharaonique à l'époque de 42 millions d'euros annuels pour une période de 8 ans, et le contrat est renouvelé en 2018, toujours pour une période de 8 ans, mais maintenant pour 50 millions d'euros. Ce qui fait que le maillot est, depuis l'arrivée de Nike, le maillot de l'équipe de France, c'est le maillot le plus cher de toutes les sélections nationales, record partagé avec l'Allemagne depuis le second partenariat à 50 millions d'euros. Au niveau des chiffres de vente, les meilleures années, c'est en 1998 et 2006, où environ 500 000 maillots ont été vendus. En 2010, Adidas était parti sur de très bonnes bases en vendant 300 000 maillots avant la Coupe du Monde, mais vu le fiasco sportif qu'a été cette épreuve, les chiffres n'ont pas beaucoup évolué et la marque aux trois bandes n'a donc pas pu battre son record de 500 000 ventes. Pour la période Nike, il n'y a pas d'informations à donner puisque la marque américaine ne communique jamais ses chiffres de vente. Donc on ne peut pas donner de chiffres. Dernier élément qui me semble important, intéressant de noter, c'est l'évolution du prix du maillot. En 1978, un maillot se vendait 85 francs, environ 12 euros. Aujourd'hui, un maillot se vend 90 euros. Je parle du maillot de base, sans flocage, sans parler de maillots réplica qui sont beaucoup plus proches des tenues réelles des joueurs et qui sont plus chers. Si on compare ces chiffres au SMIC horaire, on constate qu'on reste à peu près dans le même ordre de grandeur. S'offrir un maillot de l'équipe de France, ça coûte entre 8 et 10 heures de travail payé au SMIC horaire. Donc le prix du maillot reste assez constant dans le temps. Donc voilà ce que je peux vous partager sur ce sujet. Je vous invite à vous procurer le livre Un maillot, une légende si ça vous a intéressé. Vous y trouverez beaucoup d'informations complémentaires. Vous pouvez également explorer le site Chronique Bleue où on a traité d'un certain nombre de sujets se rapportant au maillot, mais aussi de bien d'autres sujets en rapport avec l'équipe de France. France is ready to rise as one. Perisic.
comfortable gather for Hugo Lloris, a catch that may win the match. Ready, ready, boys. Here comes your moment. It is France. Allez les Bleus. All rise to another class of gilded Gallic greats. The dignitaries meet. The Deschamps double is complete. In 1998, he lifted it. 20 years on, he will see it lifted for him. It will be some can-can on the Champs-Élysées tonight. From Boulogne to Biarritz, Calais to Cannes, Cherbourg to Chamonix.